Merci Seigneur pour Laurent, merci pour ce que tu as placé sur son cœur et merci pour cette manne fraîche que tu veux nous donner aujourd'hui encore au travers de ta parole. Amen.
Bonsoir à chacune et à chacun. Vous pouvez ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, comme vous le savez. Si on manque de lumière, on peut allumer peut-être Théo. Comme ça, ceux qui lisent dans leur Bible pourront voir ce qui est écrit. Merci. On en est au livre des Actes des Apôtres, oui, et puis au chapitre 10 et 11 pour aujourd'hui. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'en ferai un petit résumé. Enfin, un résumé. Et à partir de là, je dégagerai quelques pensées pour nous aujourd'hui, pour toi et pour moi. Dans la vue générale des Actes des Apôtres, il faut se rappeler que les disciples, comme vous et moi, c'était des gens comme vous et moi, ils avaient un travail ou pas, peu importe, mais ils ont entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et puis dans cette bonne nouvelle, il y a inclus un ordre de mission. Et vous vous rappelez, l'ordre de mission, c'est aller de par le monde, faites de toutes les nations des disciples. Donc on reçoit la bonne nouvelle, puis en même temps, Dieu veut nous engager dans sa moisson. Là aussi, c'est des images de l'agriculture que Il donne, Jésus, travailler dans sa moisson, ou voilà, à la moisson et récolter la vigne, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu l'Évangile, enfin, pour la plupart d'entre vous, je pense que je le sais, mais voilà, as-tu reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Et si oui, as-tu reçu aussi et accepté le mandat qui va avec, en disant oui, je participe à l'annonce de l'Évangile et à, dans ma génération, en fait, à ce que cet évangile progresse et touche des vies. Alors, je vous pose la question, c'est vous qui répondez devant le Seigneur. Alors, moi, je sais que j'ai dit oui. J'ai dit oui sans savoir. Mais avec le Seigneur, c'est bien de faire comme ça. Il ne nous dit pas tout. Parce que si on savait tout, on dirait non. Non, Seigneur, ça va être trop cher. Je ne veux pas payer le prix pour ça. Tu rigoles ou bien qui dirait oui à une annonce de l'évangile? Et tu sais, tu vas être persécuté. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde ce que tu vas dire. Ton témoignage de risque de ne pas être reçu. Alors, il n'a pas tout dit, mais voilà. Mais, enfin, en tout cas, c'était mon cas. J'ai d'abord signé le contrat avant de lire ce qui était marqué, parce qu'il n'y avait rien marqué de spécial. Voilà, en tout cas, je n'avais pas encore lu les Écritures comme je les connais aujourd'hui. Alors, on est dans ce grand mandat des Actes des Apôtres, et ça commence dans quelle ville qui va me dire où ça commence? Parce qu'il faut bien que ça commence quelque part. Pardon ? Jérusalem, oui, la perle aux yeux de Dieu, la ville de paix, la ville choisie par le Seigneur, ça commence à Jérusalem. Et puis comme les disciples, ben, c'est des disciples comme vous et moi, ils ont besoin du Saint-Esprit. Et le rendez-vous de Dieu pour donner le Saint-Esprit aux premiers croyants, c'était à la Pentecôte. Je pense que vous le savez, il y a une connexion là. Il y avait du monde, le Seigneur a déversé là où il y avait du monde, son Esprit Saint. Alors ça commence à Jérusalem, et puis eh bien, ça parcourt la géographie de l'époque, et le Saint-Esprit va remplir les croyants, connus ou inconnus, et puis ça se répand dans le monde et jusqu'en 2021, jusqu'à Aunay peut-être jusque-là. Et peut-être que nous, on va transmettre le flambeau à d'autres, peut-être, qui le sait. Ça dépend de ta réponse, ça dépend du mandat que Dieu te confie et de ton acceptation de ce mandat. Dans Actes chapitre 10, je ne vais pas faire le résumé des chapitres précédents, mais dans Actes chapitre 10, cette mission continue. Et on a un moment clé. Et le mot-clé, c'est clé, justement. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, ça nous est rapporté un événement où je ne sais pas si Pierre a tout compris de ce que Jésus lui disait. À la question qui est posée, Jésus pose la question, mais qui dites-vous que je suis? Vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, bah, tu es les paroles de la vie, tu es le Messie, tu es le Christ. Il a saisi par révélation qui était Jésus. Et Jésus lui dit, tu es Pierre. Il s'appelle Simon en vrai, mais son surnom c'est Pierre. Tu es Pierre, et sur ce rocher, sur ta déclaration, sur ta foi, je vais construire mon église. Et là, il y a un moment historique, parce que Dieu lui confie des clés. Sur notre drapeau à Genève, on a une clé qui rappelle ce moment biblique qui est là. Dieu confie à son Église, aux croyants, à toi et à moi, on n'a pas besoin d'un titre pour cela, mais simplement d'accueillir ce mandat, des clés spirituelles qui ont toute leur importance. Et durant ta vie, tu as des portes fermées à ouvrir avec les clés que le Seigneur te donne. Je vais prendre un trousseau comme ça, on va se rappeler de mon message. Ah oui, il avait prêché quoi l'autre jour? Je sais pas, il avait un trousseau à la main. Ah ouais, c'est bon. Si vous retenez que j'avais un trousseau que je vous ai montré, encore, encore espérons que je l'ai. Oui, j'ai les clés de l'église, j'ai les clés du temple. Sinon, j'aurais demandé à d'autres. Voilà, le Seigneur confie des clés. Là, il se trouve que la caméra, elle est fixée sur l'apôtre Pierre, mais il les confie aussi à d'autres. Dieu nous confie des clés pour ouvrir des portes fermées. Et la porte pour Pierre, dans Acte 10, dans son cœur, elle est fermée. Et puis physiquement, elle est fermée parce qu'on lui a dit, tu ne vas pas chez les païens. Tu es juif, un juif ne va pas chez les païens. Ne va pas, voilà. Nous, on est élus, tu es élu, Pierre. On lui a mis ça dans la tête depuis tout petit. Le peuple juif a été élevé comme ça. Tu ne vas pas chez les païens. Ou si tu y vas, ok pour du business, ok pour faire des affaires, voilà, prendre leur argent, mais pas plus. Je résume un peu. Il y a cette notion d'impur et de pur dans la tête de Pierre qui est là. Donc la porte est fermée. Mais Jésus a dit sur Pierre, « Pierre, je te donne les clés du royaume et je bâtirai mon église à travers toi. » Alors il faut tout de suite casser, pour ceux qui le pensent, que c'est la nomination de la papauté qui va commencer avec Saint-Pierre, vous oubliez ça, parce que les clés, elles sont confiées à l'Église de Jésus-Christ. Elles sont confiées aux croyants. Il y a des rôles différents, il y a des fonctions différentes, bien sûr, avec Pierre, on le voit dans ce texte. Pierre a son cœur fermé, il ne faut pas dépasser. On a vu dans Acte 9 que Pierre, il s'est déplacé de Jérusalem, c'était déjà un grand pas, jusque dans la maison de Simon, un autre Simon que lui, qui est sur la côte à Jaffa. Et cette maison, elle est aujourd'hui encore identifiée, enfin en tout cas l'emplacement, moi je l'ai vu, j'ai photographié, alors est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, ce n'est pas un lieu touristique, mais il y a une inscription dessus, ici était la maison de Simon le tanneur. Et je vous ai dit la dernière fois que Pierre le Juif a fait déjà un grand pas en allant dans une maison qui devait être aussi une maison atelier, où Simon en question, eh bien, il s'occupe du cuir. Et le juif a l'interdiction de toucher un animal mort. Et il va, quelle horreur, Pierre le juif va, quelle horreur, chez Simon, il loge là, Dieu a dû toucher son cœur déjà, le travailler, pour qu'il soit dans cette maison atelier où on va tanner le cuir et les peaux mortes. Alors j'imagine Pierre qui rentre dans cette maison en rasant les murs. Je ne veux pas aller à l'atelier où on est en train, où déjà ça pue, non, où ils sont en train de tanner les peaux pour le cuir. Mais il y a eu un déblocage dans sa tête à Pierre. Hein. Il ne devait pas être là. Du reste, dans Acte 11, si vous l'avez lu, on va lui reprocher. Alors, pas d'être allé chez Simon, en tout cas, le texte ne dit pas, mais t'es allé, parce que c'est il va aller chez Corneille, t'es allé chez des païens, t'es allé chez des gens impurs. Puis il doit justifier, expliquer dans un rapport des faits, il se cantonne aux faits. Voilà ce qui s'est passé, les visions, Dieu m'y a conduit, etc. Donc il n'y a pas allé de son propre gré, en tout cas dans un premier temps. Alors ce texte, il est intéressant, mais mettons-nous aussi en parallèle dans ce texte-là. Il y a un entre les lignes, c'est le Seigneur qui te mandate, qui te donne des clés pour aller peut-être là où toi déjà, tu n'as pas envie. Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Il y en a dans la parole de Dieu qui ont dit, mais envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi moi? Moïse, par exemple, envoie quelqu'un d'autre. Dieu se fâche, il dit, ok, je te donne ton frère, il sera ton porte-parole. Voilà, mais arrête, casse-moi pas les pieds, c'est moi qui t'ai créé, je t'envoie. Dieu nous confie des clés. Jamais dans ma vie, j'avais pensé être pasteur. De 0 à 19 ans, ou même 20 ans, ou même 22 ans, je ne pensais pas être pasteur un jour. Mais j'avais dit oui, vous vous rappelez, je vous ai dit au début du message, j'avais signé en bas du contrat. Seigneur, je tiens parole. Voilà, mais il te confie des clés là où tu en es. Et c'est ce que, à quelque part, Actes chapitre 10 nous dit. Il y a eu un concours extraordinaire, Dieu a coordonné des choses, de manière fabuleuse, comme notre Seigneur sait si bien le faire. Comme il sait si bien le faire. L'Évangile doit parvenir en dehors de Jérusalem, en dehors de la Judée, en dehors de la Samarie, en dehors de la Galilée, là où c'est impossible d'aller pour les Juifs, en terre païenne, pour annoncer la bonne nouvelle et la parole de Dieu. Alors dans Acte 10, on a deux personnes, Pierre et Corneille, qui ont quasi simultanément des visions. Corneille, c'est un soldat romain. Peut-être ça répond à la question qu'on se posait jeudi, est-ce qu'un chrétien peut faire l'armée ? Acte 10, on a un officier qui est là, qui est chef militaire, mais qui aime Dieu. Il n'est pas sauvé, mais il aime Dieu. Le texte nous dit dans Acte 11 qu'il n'était pas encore sauvé. Voilà. Il a une vision, il aime Dieu, hein, ce qu'on appelle les gens qui respectent Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu, mais qui ne le connaissent pas vraiment, qui ne sont pas encore sauvés, parce qu'il n'y a pas encore le salut en Jésus-Christ qui est annoncé. Et ce militaire-là, il aime le Seigneur et il a une vision vers 3 heures de l'après-midi. Dans sa vision, qu'est-ce qu'il voit ? Un ange. Est-ce qu'il savait que les anges existaient ? On ne sait pas trop, mais là, un être s'impose à lui qui lui donne des directives précises. Et il lui dit d'abord, il le remercie. C'est un homme qui faisait beaucoup d'offrandes, qui était en bénédiction pour le peuple juif. Et c'est formidable, Dieu commence par le remercier. Et il faisait beaucoup de prières. Et il lui dit dans son langage, tes prières et tes offrandes, tes aumônes sont montées vers Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. C'est trop bien ça, hein ? Il le remerciait. Je ne sais pas si le Seigneur pourrait nous remercier de nos prières et de nos offrandes. Voilà. Mais en tout cas, il a un ange qui vient là pour la bonne cause. Qu'y a-t-il, Seigneur ? Monsieur, en fait, il dit à l'ange, Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Hein, le titre Seigneur, c'est Monsieur aussi à l'époque. Hein, Monsieur, Madame, Kyria, Kyrie dans la langue grecque. Voilà, qu'y a-t-il, Seigneur ? Alors, il donne des remerciements à Corneille, à ce soldat officier, pardon, romain. Et puis, il lui donne des directives précises. Tu envoies des hommes à tel endroit, là où il y a un certain Simon qu'on appelle Pierre. Il est logé dans la maison du tanneur. Directive précise, hein ? Alors, c'est un militaire. Un militaire, ça sait obéir. Ça ne discute pas les ordres. Et c'est ce qui se passe. Il va envoyer deux de ses employés, de ses soldats, serviteurs et soldats, pardon, un serviteur et un soldat, pour aller à tel endroit. Et quasi simultanément, Pierre, le juif, donc ce n'est pas méprisant hein, ce que je dis, mais vous comprenez l'idée de fermeture qui est encore qu'il habite. Pierre, c'est midi, il a faim, il monte sur la terrasse de la maison de Simon, comme c'est au Moyen-Orient, on voit tous ces terrasses-là, ça n'a pas changé, hein, 2000 ans après, toujours des terrasses, là ils ont juste des fois des paraboles, des antennes paraboliques en plus et des réserves d'eau. Dans le quartier arabe, c'est des réserves qui sont couleur noire. Si vous allez chez les Juifs, c'est couleur blanche sur les toits. Donc, on voit la différence qui habite où. Voilà, il monte sur la terrasse, il veut prendre un temps avec le Seigneur. Et là aussi, le ciel s'ouvre, le texte nous dit de la Bible, le ciel s'ouvre et il y a cette grande issue dans lequel Pierre, il n'a pas besoin qu'on lui conte ce qu'il en est. Il y a des animaux purs et impurs. Encore une fois, voilà. Mais ce qui fait la différence, au-delà de la vision, je passe les détails, c'est qu'il y a une voix qui se fait entendre, Pierre, à lui, directement. Ne considère pas les choses des personnes impures alors que Dieu les appelle pures. Il s'agit de personne ici. Mais Pierre ne comprend pas tout de suite. La porte est encore un petit peu fermée. Il ne comprend pas. Il est perplexe. Nous dit le texte, il se gratte la tête. Vous faites comme ça quand vous réfléchissez. Les hommes font comme ça si le col est trop serré. Voilà, on réfléchit. Ça travaille du chapeau, ça tourne dans sa tête. Parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi on sait qu'il ne comprend pas tout de suite ? Parce que le texte dit qu'il est perplexe sur le sens de la vision. Il est peut-être habitué à avoir des visions, on ne sait pas trop. Mais celle-là, il ne la comprend pas. Alors d'un autre côté, Corneille comprend ce qui lui est dit. Et Pierre ne comprend pas cette grande vision qu'il reçoit, telle qu'elle nous est rapportée. Mais alors qu'il réfléchit, l'Esprit Saint parle. Je paraphrase un peu, arrête de réfléchir, tu vas comprendre plus tard. Maintenant, il y a trois hommes qui arrivent, Tu pars avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. Directive précise. Quand l'Esprit Saint parle, te parle, il peut être directif, très clairement. Hein. Des fois, il nous dit « je t'aime » d'un amour éternel, mais des fois, « fais ceci, fais cela, tout de suite. Éteins la télé, fais ceci, cela. » Il a le droit de le faire, hein, si on lui donne la possibilité, s'il y a un plan qui est là. J'espère qu'il peut le faire dans nos vies. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, et ils partent le lendemain. 3 heures de marche, à peu près. Et puis, ils arrivent, Pierre arrive avec 6 autres personnes. Je passe les détails. Il y a 6 disciples avec lui. Il faut qu'ils soient témoins de ce qui va se passer. Dieu le sait aussi là. Et ils arrivent chez Corneille. Et Pierre arrive chez Corneille. Corneille, il ne connaît pas tellement les choses de Dieu. Il se prosterne devant Pierre. Et puis Pierre lui dit, écoute, tu vas te lever là, je suis un homme comme toi. Il le remet en place en disant la bonne situation, moi, on est pareil. Puis peut-être qu'il avait beaucoup de joie, Pierre, puis en même temps contrasté avec ses sentiments. Oh, j'ai rien à faire chez un non-juif, qu'est-ce que je fais là? Je suis un païen, qu'est-ce que je fais là? Puis en même temps, il y a l'Esprit Saint qui lui dit, c'est moi, je suis là derrière, et qui te pousse. Ce qui va se passer, ben, c'est la même chose qui s'est passée à Jérusalem. On exporte le modèle qui va bien à Antioche, c'est pas Antioche, pardon, c'est à Césarée, dans la ville de Césarée. Et en fait, le dialogue qui échange entre Pierre et Corneille est tellement extraordinaire et formidable, il y a une opportunité qui est toute belle pour l'annonce de l'Évangile. Le verset clé, à mon avis, de Acte 10, c'est le verset 38. En fait, Pierre, il fait quoi? Il annonce le message. Mais il ne fait pas comme à des Juifs, comme à la Pentecôte. Son message, il est très différent. Il parle simplement de Jésus et il dit, vous savez comment Dieu a déversé son onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth. Donc la renommée de Jésus était allée jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à Césarée. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il allait de lieu en lieu, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. En fait, il leur présente Jésus comme le choisi de Dieu et comme un déménageur qui a tout balayé sur son passage. Il a chassé les démons qui tenaient liés les gens dans le mal. Jésus, il faut que tu viennes à Genève. Jésus, il faut venir à Honnay. On a autant de besoins qu'à l'époque. Il faut des déménageurs. Et le Seigneur nous répond, mais c'est toi que je veux oindre. C'est toi que je veux oindre pour aller faire du ménage spirituellement, faire du bien. Parce que le cœur de Jésus, il n'a pas changé. Dans Marc chapitre 3, la Bible nous dit, comme à son habitude, il va dans une synagogue, il enseigne des fois, voilà, comme s'il venait au milieu de nous, nombreux ou pas nombreux, ce n'est pas le nombre qui attirait Jésus. Puis il voit là un homme qui a une main paralysée, qui est paralysée. Puis il lui dit, mets-toi au milieu, peut-être qu'il était là, mets-toi au milieu. Les religieux qui sont derrière, ah, ils nous cassent notre sabbat, notre rite. Jésus s'en fiche un peu, il va les engueuler après. Lève-toi au milieu, là. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tes péchés sont pardonnés. Le plus important pour Jésus, c'est certes de faire du bien, mais c'est que notre vie soit pardonnée, soit purifiée, parce qu'il est venu pour ça. Et puis, l'annexe, si on a la foi, c'est la puissance qui se manifeste et qui démontre le royaume de Dieu. C'est trop beau ça, hein? Et Jésus n'a pas changé là où tu es. Donc si on guérit les malades, je mets entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, n'oublions pas l'annonce du message, de la bonne nouvelle. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Est-ce que, moi je connais quelqu'un qui a le pouvoir de tous les pardonner, tout le mal que tu as fait, moi j'ai fait du mal aussi, je ne suis pas mieux que toi, mais je connais quelqu'un qui peut tout pardonner tes péchés. Ah bon? Même ça? Même l'avortement? Parce que tout d'un coup, il y a la conviction de péché. Même ce que j'ai fait là, quand j'étais gamin? Même ceci, cela? Oui. Là, le Saint-Esprit est là avec toi quand tu évangélises. Jésus n'a pas changé. Alors Pierre annonce l'Évangile. Il dit que moi, ce n'est pas du blabla que je vous raconte parce que j'étais témoin de ces choses-là. Et puis, le Saint-Esprit le prend par surprise. Il descend. On estime qu'il y avait à peu près 30 personnes, peut-être plus, là, sur le groupe dans la maison de Corneille. Serviteurs, soldats, ses amis qu'il a fait venir. Et puis, il parle en langue, il chante à Dieu des louanges dans les langues connues ou inconnues. Puis Pierre, qui est très humble, ben, il dit, mais pourquoi on refuserait le baptême à ceux qui parlent en langue comme nous? Alors, baptisons-les, et il donne l'ordre de les baptiser, peut-être à l'équipe qui est avec lui. Voilà pour Actes chapitre 10. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que nous sommes des Simon, des Pierre, vous et moi, à qui Dieu donne ces clés-là, une clé. Tu as une clé dans ta vie qui doit ouvrir une porte fermée. Et ça peut être, c'est forcément lié à l'annonce de l'Évangile. Forcément, ça c'est la mission générale. Il y a une annonce de l'Évangile que toi et moi devons faire. Ça peut être un témoignage individuel, ça peut être une fois tu es interviewé à une radio, voilà, peu importe la forme, mais il y a ce grand mandat qui est là, global, pour tous et toutes, peu importe la forme. Et puis, comme je disais dimanche dernier, acte 9, il peut y avoir des missions spécifiques, Dorcas ou Ananias, qui est un disciple, qui sont des disciples, à chacun de découvrir. Alors, est-ce que tu as pris la clé que le Seigneur te donne? Pierre l'a prise, et avec elle, c'est la porte des païens qui s'ouvre à l'Évangile, la porte de l'Évangile qui s'ouvre pour le monde païen. Et ça, c'est quand même fabuleux. Parce que si Pierre n'avait pas obéi, alors peut-être ça aurait été un autre canal, mais quand même, il a ouvert la porte, et acte 11, c'est la création de la première église païenne à Antioche. La première église qui est, à peu près, j'ai regardé la carte tout à l'heure, en ligne droite, c'est à peu près 400 kilomètres, de Jérusalem. 400 kilomètres de Jérusalem. Donc, et ce n'est pas Pierre qui a évangélisé Antioche, on ne sait pas, c'est les anonymes, c'est vous et moi, qui ont commencé à évangéliser. Et acte 11 nous raconte leur périple. Il y a des chrétiens de Chypre, de Cyrène, d'ici, de là. Ils ont évangélisé des juifs. Et puis d'autres, ils ont eu le courage de prendre la clé pour annoncer l'évangile en terre non juive. Et l'église d'Antioche va naître. Et ça va être la première église locale de Saul de Tarse. C'est là son berceau spirituel. En général, on n'oublie pas son berceau spirituel. Là où vous êtes né de nouveau, si vous êtes passé par une nouvelle naissance, on va dire, liée à l'instant T, il y a d'autres qui sont famille chrétienne, mais voilà, votre berceau spirituel, ça reste toute la vie. Saul de Tarse, il va être là, grandir spirituellement dans cette église. Être des pierres qui ouvriront les portes fermées à ce jour. Acte 11, c'est un flashback. Rappelez-vous, Étienne est mis à mort à Jérusalem. Saul de Tarse, après cela, se convertit. Mais à ce moment-là, c'est comme si le diable avait pris un bâton pour taper sur l'église de Jérusalem. Tous les croyants, les nouveaux croyants qui sont là, sont dispersés. Moi, je ne sais pas, s'il y avait une persécution à Genève, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait? Ben, les apôtres, ils ont dit, les responsables de l'Église ont dit, nous, on reste là. Dieu ne nous dit pas de partir. Mais tous les autres, ou la plupart, sont partis. Ils ont quitté le job, quitté l'appartement, quitté la maison. Ils partent, mais ils ont pris ça comme une opportunité, mais ça ne devait pas être évident quand même de tout quitter, comme opportunité pour dispenser parmi les autres juifs la bonne nouvelle. Et quelques-uns, nous dit acte 11, ont eu le courage d'annoncer la parole à des païens. Et vous savez quoi? Dieu a béni ce travail. Dieu a béni ce travail. Quoi? Dieu a quand même béni ceux qui sont nos ennemis. Enfin, voilà, ceux qui... voilà. Mais oui, Jésus l'avait dit. Vous serez mes témoins. Du reste, il y a quelques épisodes dans les évangiles où Jésus est allé en terre païenne et il a rencontré beaucoup de foi, un esprit de foi à ce moment-là. Et voilà, donc c'est l'histoire de acte 11 que je relève un petit peu là. La fondation de la première église en terre païenne à Antioche. Les disciples ont été chassés, ils ont témoigné de leur foi, Dieu a béni ce travail. Et on va voir le verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La main du Seigneur. Donc ça veut dire que la bénédiction était là sur cette annonce de l'Évangile. Quand tu vas annoncer l'Évangile, la bénédiction du Seigneur va être là. Même si tu es comme ça, hein, la bénédiction du Seigneur peut être là. Ils n'étaient pas différents de nous. Il ne faut pas les voir comme des super-héros, super-héroïnes. C'était vous et moi. Parce que Jésus a dit, soyez mes témoins dans le monde là où vous êtes. Dans ton monde à toi, sois le témoin. À ta voisine, à ta concierge, à ta, celle, la personne que tu rencontres dans la rue, à qui tu discutes, voilà, parce qu'il fait beau, parce qu'elle promène son chien, ou il, voilà. Sois le témoin là, ça c'est ton monde. Ça peut être planifié, organisé, on utilise les fêtes de Noël, de Pâques et autres, mais ça peut être aussi tout spontané comme ça. Et Dieu bénit ce travail-là. Et il a béni, et du coup, il y a un groupe de chrétiens qui a commencé à se rassembler, des nouveaux, et c'est à ce moment-là qu'on va les appeler chrétiens, qui est un sobriquet, parce qu'ils devaient tout le temps parler de onction du Saint-Esprit. Alors, onction, Christ, voilà, ceux qui sont loin, ils les ont appelés comme ça, voilà, mais ce n'était pas une religion à ce moment-là. Ils s'appelaient entre eux les frères et sœurs, les saints, voilà, c'était, mais il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de bâtiment d'église, on n'a pas construit de clocher encore à ce moment-là, c'est, voilà, c'est tout neutre, quoi, hein, tout le début, nouvelle naissance pour l'église. Dieu bénit leur travail. Un jour, j'ai discuté avec un pasteur africain quand j'étais en Afrique de l'Ouest. Et puis je dis, écoute, Josias, c'est quoi les soucis de l'Église ici, les soucis des chrétiens, c'est quoi ? Moi, je lui ai dit, tu sais, en Europe, si je me mets à évangéliser, je fais une grande annonce avec des affiches et tout, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont venir. Puis moi, il me dit, mais nous, on n'a pas besoin de faire des affiches, les gens viennent. Les gens viennent en grand nombre comme ça. Tu peux être sûr que si on dit, voilà, vendredi soir, on va évangéliser à tel endroit, on est deux, trois, il y a la foule qui se rassemble. Je dis, waouh, génial, etc. Mais il me dit, notre souci, c'est l'enracinement. Ces chrétiens nouveaux, après là, ils ont des racines de 3 cm dans la terre, ça ne tient pas. Ils continuent de faire leur sacrifice de poulet, ils continuent d'aller voilà, chercher les marabouts et les gris-gris, etc. Et là, ça, c'est notre défi à nous. Donc voilà, un autre défi ici. Il y a un autre défi dans Acte 11 qui est là, et c'est l'Église de Jérusalem qui va pallier à ça en envoyant Barnabas. Barnabas, nous dit le texte, c'est un homme de bien. C'est quelqu'un qui aime l'Église, c'est quelqu'un qui aime Jésus, c'est un disciple bien-aimé, et c'est quelqu'un qui a compris l'amour et la grâce de Dieu. Il est juif, mais il a un nom grec. Donc, il a compris que ce n'est pas très important. Moi, j'étais frappé, c'est quand qu'on a fait le 170e anniversaire de l'ELG, on a fait venir des frères et sœurs qui sont juifs, mais qui ont reçu Christ dans leur cœur, qui ont reçu Christ dans leur cœur. Et puis un des deux orateurs là, il nous disait en aparté, il nous disait, mais est-ce que j'en ai marre de cette orthodoxie dans mon pays, j'en ai marre de tout ce qui est religieux, etc. Pas du tout religieux pour deux sous, quoi, rien du tout. Alors voilà, un Barnabas, il était comme ça, avec un don d'exhortation. Et Barnabas, quand il voit ce qui se passe dans la région d'Antioche, il se réjouit de la grâce de Dieu. Il n'est pas en train de leur dire, bon les gars, il faut vous faire circoncire. Quoi ? Non, il ne dit pas ça. La grâce de Dieu était à l'œuvre, guérissant, enracinant ces nouveaux croyants-là dans la grâce de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Il s'est réjoui. Il était mandaté par Jérusalem pour ce travail-là. Voyant l'œuvre de Dieu qui commence à grandir, il n'y a pas beaucoup de chrétiens encore dans le monde romain. Hein ? On est peut-être à quelques centaines, milliers de croyants qui sont là. Qu'est-ce qu'il fait Barnabas ? Il se gratte la tête. Il y a Saul qui s'est converti. Il va l'aider, vous rappelez, hein, il va l'introduire auprès des apôtres, il va le présenter à Jérusalem. Et puis Saul, il lui dit, Saul, reste avec moi, il y a du boulot ici à Antioche. Et Saul, tout de suite, il va prêcher, il va annoncer l'évangile, il va travailler, donc un petit peu ici ou là, pas seulement à Antioche. Mais il va être très utile pour l'église d'Antioche. Et puis après, il aura son appel plus missionnaire dans Actes chapitre 13. Rappelez-vous les clés. Dieu te donne des clés. Est-ce que tu les as prises ? Est-ce que tu veux les prendre ? Quelle porte je dois ouvrir ? Quelle porte je dois ouvrir ? Dans Actes, je crois, chapitre 16, Paul, avec Luc et quelques autres croyants qui sont là, c'est samedi, ils cherchent un endroit pour prier le Seigneur à l'extérieur. Rappelez-vous, il n'y a pas d'église, hein ? il n'y a que des païens là où ils sont. Ils cherchent un endroit au bord de la rivière. Et puis, ils rencontrent quelques juifs qui sont là, peut-être des non-juifs. Ils font un mini-culte. Ils sont 12, 15 peut-être là, un groupe de maisons, mais c'est en extérieur. Et puis, Lydie est là. cette femme d'affaires, et le Seigneur lui ouvre le cœur. Là encore l'histoire de Clé. C'est Paul, c'est Saul de Tarse qui est utilisé, Paul qui s'est converti glorieusement. Voilà, elle lui ouvre le cœur. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'annonce de l'Évangile passe en bonne partie par l'amitié, les contacts que nous avons les uns et les autres. En bonne partie, pour les croyants anonymes que nous sommes, hein, j'entends par rapport aux appels au ministère de direction d'église, etc., eh bien, ça passe beaucoup par l'amitié. Être ce qu'on est en Christ, ne pas diminuer notre témoignage, mais être ce qu'on est. Et ma conviction ce soir, c'est que le Seigneur nous donne des clés différentes les uns des autres, comme ça, pas besoin de s'imiter, nous donne des clés et peut-être qu'il faut se lier d'amitié avec des nouvelles personnes. Là, être ses témoins, écouter. Je me suis souvent posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi ? Je n'ai pas de réponse. Parce que souvent, je ne sais pas quoi dire aux gens non chrétiens. Alors je les écoute. Puis il y en a qui ouvrent leur cœur. C'est génial ça. Je les écoute. Voilà. Et ils parlent. Et le Seigneur, pendant cela, il enlève le pu ou le péché qui est à l'intérieur. Et ça, c'est génial. Et j'aime bien le faire avec les frères et sœurs aussi, bien sûr. Écoutez. Et comme ça, après, si le Seigneur met une parole sur mon cœur pour cette personne, dans l'amitié, si elle est prête, je vais essayer de lui dire, lui transmettre cette perle pour elle. Mais nous sommes tous différents. Certains sont plus chasse-neige, char d'assaut et autres. Mais on est tous différents et le Seigneur sait s'accommoder de cela. Mais l'Évangile qui parvient jusqu'à Antioche. Tu peux être un Barnabas, un Saul de Tarse, un Pierre, et on ne sait pas, encore une fois, qui a fondé cette église d'Antioche. On n'a pas les noms, mais peu importe. C'est toi, c'est moi. On a des clés pour ouvrir la porte. Et Dieu veut bénir ce travail-là. On va prier, et j'aimerais dire ce soir que s'il y en a qui veulent simplement recevoir la prière de bénédiction dans ce sens-là, Seigneur, fais de moi un témoin, aide-moi à ouvrir la porte vers les grands, vers les moyens, vers les petits, comme disent les Écritures, peu importe, eh bien sa grâce peut être là. Un jour, il y a quelqu'un de la paroisse, une sœur qui est décédée maintenant, qui m'a dit « Ah, écoute, j'ai une amie, Laurent, est-ce que tu veux venir prier pour elle ? Elle est malade. » Je dis « Oui, écoute, volontiers, elle est croyante. » Elle me dit « Non, je pense qu'elle ne croit pas en Dieu, mais elle est malade et elle est d'accord qu'on prie pour elle. » Et je dis « Ok, on prie pour ça, et puis le Seigneur, s'il ouvre une porte, on va y aller. » Et il travaillait mon cœur, et puis il travaillait le cœur de la sœur et de son ami, tout ça. Et puis, le rendez-vous est fixé, c'était en France voisine. Vous voyez, grand frais, là, Saint-Julien. Et puis, par derrière, il y a des maisons, là-bas. Et puis, le rendez-vous est fixé un samedi. Et je vais là-bas. Et elle avait invité ses amis. Elle avait invité sa famille. Et je vois une personne très malade. Elle était vraiment en phase de cancer assez avancée, comme ça. Et puis j'étais là, je dis bon, faut y aller quoi. J'avais rien sur le feu, j'avais pas d'excuse pour rentrer à la maison. Et encore une fois, je suis pas évangéliste, mais j'ouvre ma Bible, j'avais pris ma Bible avec moi, j'avais un verset à cœur, et je leur raconte ce que dit la parole de Dieu, tout ça. Et il y avait les enfants qui étaient là, il y avait les jeunes qui étaient là, il y avait je sais plus combien on était, il y avait peut-être 15 personnes à peu près comme ça. Et puis, juste avant d'aller, la sœur de la paroisse qui me dit « Ah, tu sais, je sais pas si j'ai vraiment peur, est-ce que tu crois qu'il faut y aller ?» Tout ça, je dis « Écoute, le Seigneur ouvre la porte, allons-y, on verra bien. » Et le Seigneur a béni ces moments-là. Et il a ouvert mon cœur d'abord, et puis il a ouvert le cœur des personnes présentes. Et quand j'ai terminé, elles m'ont dit « Mais et la suite ? C'est quoi la suite ?» La suite, « Ah, c'est pas fini, Seigneur, non, il faut continuer. » Et puis la suite, après la suite, c'était l'apéro. Et les discussions comme ça qui étaient là, très, très ouvertes sur les choses de Dieu. Donc on était hors cadre religieux. Et si on avait fait ça à l'église, ça n'aurait pas été possible, je pense, pour ces personnes-là. Vous avez peut-être certainement d'autres aventures avec le Seigneur qui peuvent se faire là. Saisissons ces opportunités. Alors j'aimerais inviter l'équipe là, des soins pastoraux, c'est-à-dire Gilles, Evelyne, Teresa. Thérèse est malade ce soir, donc elle n'est pas là. Qui d'autre est dans l'équipe qui était là la semaine passée? Venez devant seulement. Voilà, merci. Et puis Teresa aussi vient seulement, si tu veux. Voilà, et ses frères et sœurs là, ses sœurs, frères et sœurs, on va prier pour ceux qui le désirent. Oui, je veux être un Pierre, à mon niveau, dans mon monde. J'ai besoin de plus. J'ai parlé de la foi, mais j'ai dû fermer ma bouche. Il faut qu'elle se rouvre. Je veux témoigner simplement dans ce qu'on est. Voilà, là, dans ton milieu, dans la grâce de Dieu. Tu peux être dans la prison. Je vois quelqu'un qui est dans la prison, qui témoigne. Il y a une ouverture qui est là. Donc, il y a peut-être une ouverture de témoignage. Je sais qu'il y a des gardiens qui sont chrétiens. J'ai appris ça. En tout cas, un qu'on connaît, qui est chrétien, qui témoigne aussi de sa foi. Voilà, là où tu es, témoigner. Il y a une urgence, nous dit la parole de Dieu. C'est les temps derniers, il y a une urgence. Il faut que tu sois à ta place. Chaque jour, dépendre du Seigneur pour cela. Chaque jour, c'est ta première mission, adorer le Seigneur et le servir là où tu es. Alors, ces frères et sœurs sont là. Venez vers eux si vous souhaitez recevoir cette onction qui était là sur les frères et sœurs d'Antioche, qui ont ouvert Antioche. Venez. Venez recevoir cet équipement du Seigneur. Vous faites une démarche de foi, vous vous approchez du Seigneur. Vous êtes dans votre démarche disant « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ouvre mon cœur. » Peut-être ton cœur, il est fermé, comme Pierre l'était. Et il a dû être travaillé, il a dû être passé à la moulinette pour aller annoncer l'évangile chez Corneille. Il y a peut-être un besoin d'équipement particulier parce qu'il y a une mission importante que le Seigneur te confie. Et il faut que tu sois équipé, c'est pas juste le Seigneur vous aime, il y a peut-être une mission précise. Tu dois rencontrer des gens qui ont une influence, il faut savoir quoi dire, comment le dire ou savoir se taire aussi, suivant là où tu es et comment le Seigneur dirige les choses. Alors je vous invite pendant, s'il y a de la louange, ce serait chouette, je vous invite pendant ce moment à dire oui Seigneur, donne-moi tout ce qu'il faut. Je veux plus perdre de temps avec ça, qualifie-moi, je veux être ton témoin. Avancez-vous seulement.
In the pressing, You are making new wine in the soil. I now surrender. You are breaking new ground. And so I yield to you into your careful hand. When I trust you, I